Les midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Édouard Philippe a commencé ce matin à dévoiler sa réforme des retraites. Reste à savoir si les annonces du Premier ministre seront de nature à calmer la colère lors de cette nouvelle journée de mobilisation qui engendre toujours de fortes perturbations dans les transports.
Et puis, devant le Conseil économique, social et environnemental, où le Premier ministre doit donc s'exprimer, pas moins de 200 policiers sont d'ores et déjà rassemblés depuis ce matin à l'appel de plusieurs syndicats afin de protester contre cette réforme des retraites.
Enfin, en attendant, je le disais, la très grande majorité donc des trains est toujours à l'arrêt aujourd'hui. Aujourd'hui, sans parler des lignes de métro fermées, invité de la rédaction dans moins d'une demi-heure, Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. À l'étranger, nous nous intéresserons tout d'abord au pacte vert de la toute nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit présenter aujourd'hui son plan censé faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Enfin, nous irons à Bougainville, cette petite île du Pacifique où les habitants ont décidé à une écrasante majorité de quitter le giron de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pas majeur vers la création du plus jeune État du monde. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous irons à Khartoum, vie, mort et peut-être résurrection du cinéma soudanais. On en parlera avec notre invité, le réalisateur-cinéaste Swahib Gasmel Barry, à l'occasion de la sortie la semaine prochaine en salle de son très beau film documentaire Talking About Trees, récompensé à la dernière Berlinale. Le prix du public, prix du meilleur documentaire, c'est à suivre dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure.
Je voudrais dire que cette réforme, cette refondation, n'est pas une bataille. Je sais ce que, dans notre histoire, la lutte, le combat syndical ont permis d'obtenir pour les travailleurs. Mais je ne veux pas, dans la France d'aujourd'hui, fragmentée, hésitante entre optimisme et déclinisme, parfois heureuse et ailleurs en colère, entrer dans la logique du rapport de force.
Voilà, après donc 2 années de concertation et 6 jours de grève et de manifestation, le Premier ministre a commencé donc ce matin par dévoiler sa réforme des retraites. Depuis quelques minutes à peine, Édouard Philippe présent donc devant le Conseil économique, social et environnemental l'architecture de cette réforme visant, je vous le rappelle, à fondre les 42 régimes de retraite actuels en un seul système universel par points. Bref, l'heure de vérité pour le gouvernement au sens propre comme au figuré d'ailleurs, car pendant des mois, force est de constater que la communication de l'exécutif sur le sujet aura été pour le moins confuse. Le manque de conviction, le disputant souvent à l'incohérence, au point même de pousser donc les syndicats les plus modérés à perdre patience et de laisser les plus déterminés se sentir pousser des ailes. Annabelle Grolier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct du CESE. Alors hier déjà, Édouard Philippe avait prévenu, il n'y aura pas d'annonce magique. Qu'en est-il ce matin, Annabelle ?
Oui, alors pas d'annonce magique, hein. Il l'a dit en effet, mais on attend tout de même des détails, des précisions. Alors le discours a débuté il y a à peine 15 minutes, hein. Il doit durer près d'une heure. Vous l'avez entendu, une courte introduction sur la crainte des Français et des syndicats. Édouard Philippe a tenu à préciser qu'il n'y avait pas d'agenda caché. Nous ne cherchons pas des petites économies et ce ne sera pas le système de l'argent roi. Édouard Philippe a ensuite posé les premiers postulats de sa réforme. Ce sera toujours un système par répartition avec le plus haut niveau de couverture au monde, a-t-il dit. Ce sera un système en points et non en trimestre. Le travail paiera davantage puisqu'il sera payé dès la première heure. Nous nous engagerons à ce que la valeur du point et son évolution soient discutées avec les partenaires sociaux. Donc là, quelques précisions sur cette valeur du point. La loi, dit-il, prendra une règle d'or pour que la valeur du point acquise ne puisse pas baisser. Donc la valeur du point acquise ne puisse pas baisser. Ensuite, évidemment, il a remis un petit peu sur les privilèges, les ministres, les élus. Il a assuré qu'ils seraient traités comme des salariés, comme les Français, comme tous les Français. En revanche, avec calme, avec détermination, avec respect pour les syndicats, je vous le dis, a déclaré Édouard Philippe tout à l'heure, à l'instant, le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Et Édouard Philippe de promettre que les femmes seraient les grandes gagnantes du système universel. Voilà pour le moment. Évidemment, le discours n'est pas terminé. On y reviendra sans doute un petit peu plus tard.
Merci Annabelle Grolier en direct donc du Conseil économique, social et environnemental. Alors évidemment, dans une France qui vit depuis jeudi dernier maintenant au rythme de la mobilisation, toute la question est de savoir si ces annonces du Premier ministre auront un quelconque effet immédiat. Il est évidemment encore trop tôt pour le savoir, mais d'ores et déjà l'intersyndicale a annoncé 2 nouvelles journées de mobilisation demain et mardi prochain. Hier, ragaillardis par le succès de la journée de grève et de manifestation du 5 décembre, les organisations syndicales avaient convoqué une deuxième journée de mobilisation, laquelle se sera finalement soldée par une participation en très net retrait. Moitié moindre dans la majorité des cortèges, les taux de grévistes étaient également en baisse, sauf à la SNCF et à la RATP. Alors on imagine que cette baisse de la mobilisation hier est susceptible de permettre aux annonces du gouvernement ce matin d'être mieux entendues, à moins qu'il ne faille se méfier de cette accalmie comme du calme relatif qui précède d'ordinaire la tempête. Seule certitude, les partis d'opposition qui ne cessent de dénoncer le flou entourant cette réforme attendent le Premier ministre au tournant. Quant à droite, on est prêt à reprocher tout recul jugé excessif face aux revendications des grévistes. Et bien à gauche, on continue à réclamer le retrait pur et simple du projet. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors on imagine mal Emmanuel Macron reculer sur cette réforme. Et pourquoi? Tout simplement parce que le président a fait de la transformation du pays la raison d'être de son quinquennat, ce qui signifie qu'en cas de recul, eh bien il risquerait de perdre finalement des deux côtés auprès de ses détracteurs comme de ses fidèles. Reste toutefois, Stéphane, la bataille de l'opinion, et là la partie s'annonce beaucoup plus compliquée.
Oui, alors c'est un fusil à plusieurs coups dont s'est équipé le Premier ministre pour dévoiler le contenu de la réforme des retraites ce midi. Il y a plusieurs objectifs au discours qu'il est en train de tenir. D'abord, il faut voir que parmi les annonces qu'est en train d'égrener Édouard Philippe, elles ont en partie fuité ce matin suite à la réunion de calage qui s'est déroulée hier soir avec le président de la République et les principaux ministres concernés par cette réforme. Parmi ces annonces, donc, la principale est que la réforme ne s'appliquerait pas tout de suite. De ce qu'on en sait pour le moment, on va attendre que ça se confirme, mais a priori, c'est la génération 75 qui serait concernée pour les salariés relevant du régime général et la génération 85 pour ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un régime spécial. Ça signifie que cette réforme entrerait en vigueur au plus tôt en 2037, dans 18 ans donc. Et du coup, vous faites le calcul, tous les Français qui ont aujourd'hui 44 ans et plus ne seraient pas concernés par la réforme. Ils continueraient à bénéficier de l'ancien régime, celui pour lequel tout le monde cotise actuellement. Ces annonces s'adressent donc dans un premier temps à l'opinion publique, aux Français dans leur ensemble, que le Premier ministre espère rassurer et apaiser en leur disant, un, que ça ne s'appliquera pas tout de suite, deux, qu'une bonne partie d'entre eux ne sont pas concernés. Les Français sont scindés en deux, ceux qui sont concernés, ceux qui ne le sont pas. Ceci vise sans doute à réduire le soutien des Français à la contestation et aussi à réduire la contestation de ceux qui se mobilisent, qui font grève et qui vont manifester. Pourraient se dire, à quoi bon sacrifier plusieurs jours, voire plusieurs semaines de salaire si je ne suis pas concerné. Ensuite, autre objectif, ces annonces, dans un second temps, s'adressent aux organisations syndicales. Par exemple, sur la valeur du point, ce sont les partenaires sociaux qui seraient chargés de la fixer. Sur l'âge pivot, qui pourrait être fixé à 64 ans, là encore, on va attendre que ça se confirme, mais c'est ce vers quoi on se dirige. 64 ans donc, il s'appliquerait à partir de 2027 seulement. D'ici là, les Français seraient incités à travailler plus longtemps. Mais ça, a priori, c'est une base de négociation, c'est une invitation aux directions des syndicats encore disposés à dialoguer, par exemple l'UNSA, par exemple la CFDT. Nous, on propose ça, est en train de leur dire le Premier ministre, mais discutons-en. Les syndicats les plus contestataires, quant à eux, sont relégués dans le camp de ceux qui s'opposent par principe, qui sont dans la bataille, et vous l'avez entendu. En préambule, Édouard Philippe refuse d'être dans la bataille. Reste évidemment maintenant à savoir comment seront reçues toutes ces annonces par l'opinion, par les grévistes, par les syndicats. Ça, on va attendre déjà que le discours se termine et puis on verra dans l'après-midi et dans les jours à venir.
Merci Stéphane Robert. Alors la stratégie du gouvernement, vous l'avez évoqué, pourrait être d'une part de diviser les Français qui seront ou non concernés par cette réforme, ou bien de parvenir à rassurer aussi certaines catégories de fonctionnaires comme les enseignants ou les policiers et ainsi fissurer donc le paysage syndical. Alors s'agissant des policiers, justement, après une semaine au ralenti, ceux-ci ont choisi de durcir le ton aujourd'hui à l'appel de trois syndicats majoritaires chez les gardiens de la paix, l'UNSA Police, Alliance Police et l'unité SGP Police FO. Parce que aussi tiennent à leur régime spécial, eh bien ils ont choisi de le faire savoir en bloquant l'entrée de certains commissariats avec des barrières. Quant au CRS, ils sont eux invités à se reposer, une tactique qui vise en réalité à paralyser directement le maintien de l'ordre, une tactique d'ailleurs clairement assumée par Fabien Van Hemelrijk, secrétaire général du syndicat Alliance Police. Il répond à Céline Autain.
On a conscience qu'on a un rapport de force non négligeable et on a conscience aussi que les syndicats que nous représentons, parce que nous sommes puissants encore dans la police, ont un pouvoir de nuisance non négligeable. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute du gouvernement. Et les irresponsables, aujourd'hui, c'est eux, c'est pas nous. C'est-à-dire que nous, on a prévenu, on a expliqué la nécessité de garder notre statut de policier, c'est pas un caprice de star, c'est juste une nécessité absolue parce que c'est un dû. Mais on a demandé aussi un plan anti-suicide. On a entendu parler aussi des heures supplémentaires qui ont été gérées n'importe comment à cause de la même administration. On demande des moyens matériels juste pour pouvoir travailler correctement et être équipé afin d'assurer au moins sa propre sécurité et surtout assurer la sécurité des personnes et des biens. Et donc, on l'a expliqué de manière pédagogique. Le ministre lui-même dit qu'il est d'accord avec nous. Il passe son temps à dire qu'il nous soutient. Il passe son temps à avoir des discours de considération et de fermeté même pour nous défendre. Mais ça ne nous suffit pas. Nous, maintenant, aujourd'hui, on veut des actes forts. Et si le ministre n'est pas capable de pencher en notre faveur, dans ces cas-là, on demande l'arbitrage du président de la République et on demande de faire en sorte d'obtenir satisfaction. Permettez-moi l'expression, c'est dans leur camp.
Voilà, Fabien Van Emmerik, secrétaire général du syndicat Alliance Police. Il répondait à Céline Autain. Alors, si des gages ont été donnés ces derniers jours aux policiers ou aux enseignants, ça n'est pas le cas s'agissant des salariés de la SNCF ou de la RATP. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, 3 TGV sur 4 ont été annulés et 10 lignes de métro fermées. Invité de la rédaction aujourd'hui, Bruno Gazo, président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, j'ai Hakim Kasmi. Bonjour Hakim.
Bonjour Thomas.
Première question, monsieur Gazo, comme à chaque mouvement de grève, galère rime souvent avec colère chez les usagers. Est-ce que vous comprenez toutefois la mobilisation des employés du transport public ?
Écoutez, les usagers, je trouve, font preuve d'un calme tout à fait impressionnant. En dépit des difficultés qui ne cessent de s'accroître au fur et à mesure que le temps s'écoule, hein, je reçois énormément de messages de gens qui me disent je ne peux pas suivre ma formation, je ne sais pas comment je vais finir ma période d'essai, j'ai des rendez-vous médicaux importants qui sautent, je ne peux plus, je perds de l'argent, je ne peux pas faire mon travail. Donc il y a une inquiétude, une angoisse, une détresse même que je perçois maintenant tous ces messages et qu'on perçoit finalement assez peu sur la place publique. Enfin, où je suis surpris que de la peu de place qu'elle occupe. Voilà, pour le reste, la FNOT n'a pas pour objet social de se prononcer sur les retraites. C'est pas dans son objet social. Donc, en général, je m'abstiens de donner un avis personnel sur le conflit. Nous n'intervenons, nous, que sur les difficultés que rencontrent les usagers à faire usage de leur droit à la mobilité, puisque je rappelle que le droit à la mobilité est un droit inscrit dans la Constitution au même titre que le droit de grève.
Alors justement, le service minimum, lui, est inscrit dans la loi depuis 2007, Bruno Gazo. Il oblige du coup les syndicats désormais à prévenir 48 heures à l'avance, les entreprises de transport, mais aussi les voyageurs, doivent être prévenus désormais 24 heures à l'avance, sauf qu'il n'y a pas vraiment de contrepartie, avec une petite exception en Île-de-France, où la SNCF, en théorie, doit assurer 30% du trafic aux heures de pointe et 50% pour la RATP, ce qu'on est loin du compte aujourd'hui.
Alors, les engagements que vous mentionnez sont ceux du contrat entre la SNCF et Île-de-France Mobilité. Ça ne relève pas de la loi Bertrand.
C'est pour ça que j'ai précisé, en Île-de-France.
Sur la loi Bertrand, je pense que elle a été positive pendant, elle est assez positive puisqu'elle permet quand même ces plans de transport et l'information 24 heures avant. J'observe que la SNCF, en publiant à 17 heures la veille, est pas tout à fait dans le cadre de la loi puisque c'est 12 heures avant en réalité et pas 24 heures. Mais le problème de ce service qu'on appelle minimum, qui est en réalité un service garanti, c'est-à-dire les opérateurs garantissent le fonctionnement des services qu'ils ont annoncé la veille. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs quand les dépôts sont bloqués, hein, puisque l'information ne correspond plus à ce moment-là à ce qui est annoncé.
Du coup, vous demandez des contreparties.
Du coup, le service garanti, on se demande ce qui est garanti quand il n'y a pas de service du tout. Hein. C'est ça le problème et les limites de la loi Bertrand, et c'est ça l'angle mort de la loi Bertrand. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour garantir un droit à la mobilité équivalent ou analogue au droit de grève. Et nous proposons un service minimum librement consenti et négocié entre les syndicats, les usagers et les directions d'entreprise. Nous proposons ça aux syndicats. C'est d'ailleurs, j'observe qu'il y a un précédent là-dessus, c'est au dernier conflit, la grève commençait le soir, et en réalité, les syndicats ont maintenu le retour du week-end, c'était un week-end de 4 jours, de tous les gens qui étaient partis en vacances ou en week-end, et tout le monde a pu rentrer, la grève n'a commencé que le lendemain matin. Donc il y a des précédents qui permettent d'avoir un service qui ne crée pas trop de difficultés pour les usagers.
Mais concrètement, Bruno Gazo, est-ce que vous demandez aujourd'hui des contreparties ? Est-ce que vous allez même envisager des actions sur le front judiciaire pour que la SNCF et les RATP, les autres entreprises de transport, eh bien, payent et contribuent aussi au fait que les passagers ne peuvent plus prendre le train ou le métro, voire la TER.
Ce que nous demandons, c'est déjà que les usagers soient dédommagés du nombre de jours où le service n'est pas exécuté. Nous aurons proposé aux parlementaires un amendement en sens proposant que ce soit systématiquement inscrit, qu'il soit systématiquement inscrit dans les conventions entre les régions ou les autorités organisatrices métropolitaines et les opérateurs de transport, que les usagers doivent être systématiquement dédommagés quand le service n'est pas exécuté. Malheureusement, cet amendement n'a été porté ni par les députés ni par les sénateurs, donc il n'a pas abouti. Mais nous continuons à avoir cette revendication-là qui nous paraît absolument légitime.
Mais sur le front judiciaire, vous êtes prêts justement à mener des actions pour que la SNCF ou les RATP payent ?
Sur le front judiciaire, les problèmes se posent entre les autorités organisatrice qui contracte avec les opérateurs et les usagers dans cette affaire n'ont pas voix au chapitre, si j'ose dire.
Alors le Premier ministre vient de confirmer la fin des statuts de cheminots. Il doit encore donner les détails pour savoir quelle génération cela concernait. Est-ce que du coup vous craignez un durcissement du mouvement, d'autant que la CGT et Sud et la SNCF ont déjà prévenu qu'il n'y aurait aucune concession à ce niveau-là?
Et moi, je suis assez craintif parce que je vois que le rapport de force est très affirmé. Les syndicats sont très fermes sur leur position, le gouvernement aussi. Et l'intérêt des usagers, c'est qu'on aille vers un accord qui soit gagnant-gagnant et qui réduise la peine des usagers aussi vite que possible. Ça n'a pas l'air apparemment d'être le cas pour l'instant. Peut-être ça changera dans les jours qui viennent, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je souhaite, en considérant que les usagers payent déjà beaucoup en cours d'année, puisque les transports, je vous le rappelle, ne sont pas toujours à 100% de leur efficacité. Il y a en général une ponctualité de l'ordre de 90%, ce qui fait que les gens sont en retard une fois sur 10 quand même. Donc ils payent déjà tout au cours de l'année, donc qu'ils payent en plus pendant les conflits sociaux, alors qu'ils subissent ces conflits sans avoir voix au chapitre, ça paraît très excessif. Et donc j'appelle à ce dialogue social et j'appelle à ce que les syndicats répondent à notre demande d'examiner comment concrètement on peut mettre en place un service qui ne soit pas pénalisant pour le droit de grève, mais qui limite la peine des usagers.
Merci Bruno Gazo, président, je le rappelle, de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Hakim Kasmi. Lui dans le box et elle sur le banc des prévenus, les édiles de Levallois-Perret, Patrick et Isabelle Balkany, lourdement condamnés pour fraude fiscale en septembre dernier, comparaissaient ce matin pour leur procès en appel, alors conformément à la loi. Ils sont toujours considérés comme innocents jusqu'à leur éventuelle condamnation par la cour d'appel. Quoi qu'il en soit, c'est bien une histoire hors norme, donc qui revient en justice aujourd'hui, celle d'un couple qui en 4 décennies sera passé depuis la conquête d'une ville communiste, transformée à force de soutien politique et de solides amitiés en commune cossue, du statut de baron de l'ouest parisien à celui de contribuable au parloir de la santé, condamné pour des fraudes massives fiscales donc, mais pas seulement, puisque le couple Balkany sera également rejugé en février prochain pour le volet blanchiment cette fois-ci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le procès s'est ouvert ce matin sur la demande de renvoi formulée par la défense, qui souhaite que les deux volets soient jugés en même temps l'année prochaine. Compte rendu d'audience ce matin donc signé Florence Turme.
Une demande de renvoi défendue avec un certain lyrisme par l'avocat d'Isabelle Balkany, le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, qui dénonce au passage le déferlement des réseaux sociaux. Des mails abjects, antisémites, un peuple que l'on ne contient plus, dit-il, excité par la justice. Une demande, cela dit, rejetée par la cour. Le procès vient donc de débuter. Isabelle et Patrick Balkany assis à proximité l'un de l'autre, mais elle, libre, lui, toujours détenu. Elle l'a embrassé à son arrivée dans le box des prévenus, encadré par 2 gendarmes, avant de décliner son identité. Sourire aux lèvres et grands gestes, apparemment à l'aise, elle aide son avocat à régler son micro, saisit la main de son époux, lunettes fumées, amaigrie et les traits tirés. « Je souffre terriblement », explique le prévenu, et ses avocats réclament un fauteuil pour qu'il soit assis plus confortablement que sur le banc de bois. « J'ai été opéré d'une tumeur à la colonne vertébrale », poursuit Patrick Balkany, « je suis en prison depuis 3 mois et je suis obligé d'être allongé dans ma cellule ». Isabelle Balkany sort alors une plaquette de comprimés de son sac, demande l'autorisation de lui donner un médicament accordé par la présidente. Le temps de la suspension d'audience, on a aussi trouvé une chaise pour Patrick Balkany, mais il restera première image symbolique de ce nouveau procès, toujours dans le box des prévenus.
C'est aujourd'hui que la nouvelle patronne de la Commission européenne doit dévoiler son pacte vert pour l'Europe, un vaste plan d'action pour lutter contre le dérèglement climatique tout en créant de l'emploi. Alors, Ursula von der Leyen est très attendue sur ce programme, censé permettre donc à terme de transformer en profondeur nos pratiques et notre économie, mais aussi faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone en 2050. Reste à savoir évidemment si les États membres suivront les précisions à Bruxelles de notre correspondante Angélique Boin.
Ce sera un traité de paix avec la nature, a joliment déclaré le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel. Une transformation en profondeur de nos pratiques dans bien des domaines, ce qui nécessite de revoir des pans entiers de la législation européenne. Industrie, énergie, transport, on attend aussi de nouveaux engagements sur les plastiques, l'économie circulaire ou encore la biodiversité. Enfin, nos modes de production doivent devenir écologiques. Tout cela aura un coût. Pour accompagner dans cette transition les États membres les plus dépendants du charbon, comme la Pologne, plus de 100 milliards d'euros sur 7 ans seront mobilisés. Enfin, pour éviter toute concurrence déloyale entre les industriels européens qui devront produire vert et les pays tiers, la Commission prévoit un mécanisme d'ajustement carbone, une taxe qui ne dit pas son nom. Il y aura un avant et un après, espère Pascal Canfin, le président de la Commission Environnement au Parlement européen. Le Parlement qui partage cet objectif de neutralité carbone pour 2050, reste à savoir si les annonces d'aujourd'hui suffiront à convaincre les pays réticents à franchir le cap. On le saura lors du sommet de demain.
Loin de la confortable avance qu'il prédisait le mois dernier, les ultimes sondages publiés hier soir avant les élections législatives de demain laissent entendre que les conservateurs britanniques emmenés par Boris Johnson devraient obtenir une courte majorité à la Chambre des communes, un résultat qui, le cas échéant, garantirait donc au Premier ministre la majorité nécessaire pour réaliser le Brexit. Reste qu'en raison de la marge d'erreur, eh bien ces prévisions n'écartent pas totalement le risque d'un Parlement sans majorité. En Algérie, là-bas, aucun sondage n'a été publié en amont de l'élection présidentielle prévue demain. Une élection dont les Algériens, dans leur très grande majorité, ne veulent pas, tant ce scrutin est aujourd'hui perçu pour l'essentiel comme un moyen pour le régime de se régénérer. Pour preuve, depuis l'ouverture samedi dernier des bureaux de vote à l'étranger, quand les rares votants n'essuient pas les insultes des opposants au scrutin, ces bureaux restent quasi vides. C'est ainsi que les observateurs s'attendent également à une abstention massive demain en Algérie. Enfin, après 9 mois de mobilisation vent debout contre le pouvoir, une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui. À Bougainville, cette petite île aujourd'hui dans le giron de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui compte parmi les territoires les plus pauvres de l'hémisphère sud. En dépit de ses richesses en cuivre, le vote s'est achevé samedi dernier, mais les résultats n'ont été publiés qu'aujourd'hui. À une écrasante majorité, plus de 98% des suffrages exprimés, les habitants se sont prononcés en faveur de leur indépendance, un pas majeur donc vers la création du plus jeune État du monde. Reste que l'indépendance ne prendra pas effet immédiatement puisqu'un long processus politique attend désormais les dirigeants afin de réussir à transformer cette île du Pacifique en une nation à part entière. Ils devront notamment, Élise Delève, surmonter encore d'importantes difficultés à la fois financières et administrative.
Oui Thomas, c'est le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui doit ratifier le résultat du référendum et certains députés sont catégoriquement opposés à cette indépendance. Ils craignent que ce vote donne des idées à d'autres provinces de Papouasie et que l'archipel se délite petit à petit. Actuellement, une vingtaine d'îles aimeraient plus d'autonomie. À Port Moresby, la capitale de Papouasie, le ministre chargé de Bougainville, Pouka Temu, a commenté ce vote de façon plutôt froide. Le référendum est crédible, mais il faut laisser suffisamment de temps au reste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dit-il, pour digérer ce résultat. Du temps et de la patience, il en faudra donc pour les partisans de l'indépendance. Ce n'est qu'un premier obstacle franchi, avoue un habitant. Et en plus d'une lutte politique, une lutte économique s'engage pour Bougainville. Comment l'île va-t-elle subvenir à ses besoins? Jusqu'à présent, seul 1/10 des ressources financières proviennent de l'île. Impôts, droits de douane, taxes, l'immense reste est subventionné par le pouvoir central. Un manque de ressources qui inquiète également l'Australie, voisine. Si Bougainville devient État, elle sera un État pauvre et les Australiens ont peur que cela crée une instabilité dans la région. La Chine et les États-Unis observent également de près les désirs d'indépendance de la province. Pékin a envoyé des spécialistes pour analyser les investissements possibles, notamment la création d'un nouveau port. Mais sans indépendance économique, difficile d'être vraiment libre.
Les députés israéliens ont jusqu'à ce soir minuit pour offrir une majorité inespérée aux deux rivaux, le premier ministre de droite Benjamin Netanyahu et le centriste Benny Gantz, arrivés au coude à coude lors des deux précédents scrutins. En revanche, si aucune solution n'est trouvée, alors les Israéliens seront contraints de prendre à nouveau le chemin des urnes le 2 mars prochain. Il s'agirait alors des troisièmes élections organisées en moins d'un an du jamais vu pour l'État hébreu. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. La perturbation pluvieuse continuera à traverser lentement le pays sur la façade est. À l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place avec des averses localement orageuses, mais aussi quelques belles éclaircies temporaires. Quant aux températures, les afficheront entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.